13h02, le journal Yves Decamp. Bonjour Yves.
Bonjour.
Le dimanche aussi, pour son 3e mois d'existence, le mouvement des Gilets jaunes joue les prolongations au lendemain de son 14e acte. Les Gilets jaunes qui se sont donné rendez-vous sur la place de l'Étoile à Paris. Après l'agression verbale d'Alain Finkielkraut hier, qui dit avoir senti contre lui une haine absolue, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour injures publiques racistes et antisémites. Une autre enquête est ouverte à Lyon pour le caillassage d'une voiture de police. Après les indépendantistes, les unionistes, chacun son tour à Barcelone. Mais après la démonstration de force d'hier, les partisans de l'Espagne unie se contentent aujourd'hui d'une réunion publique. Dans ce journal également, 6 mois après l'effondrement du pont de Gênes en Italie, quelle est la situation des ponts et ouvrages d'art en France ? Invité du droit de suite, le vice-président de la mission d'enquête sénatoriale. Quand une brigade de gendarmerie s'installe dans un hypermarché, c'est une première en France. Ça se passe à Creil, Saint-Maximin dans l'Oise. Et puis Hirscher en tête du slalom aux mondiaux de ski à l'issue de la première manche. Alexis Pinturo est deuxième.
France Inter.
1800 personnes évacuées des transports fortement perturbées. C'est une opération de déminage un peu hors norme qui a commencé ce matin de bonne heure au nord de Paris, porte de la Chapelle, où une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été mise au jour sur un chantier près du périphérique. C'était au début de ce mois. La bombe a dû être déplacée et placée dans un caisson où les démineurs vont la faire exploser. Opération délicate, Vianney Smirowski.
La bombe doit exploser d'une minute à l'autre. C'est la partie la plus impressionnante, mais pas la plus délicate, parce que juste avant ça, eh bien, il a fallu transporter cette bombe de l'endroit où elle a été trouvée jusqu'à l'endroit où les démineurs la font exploser. 200 mètres à parcourir à l'aide d'une pelleteuse, puisque la bombe fortement instable était dans le godet de l'engin, ce qui représentait un danger. D'autant qu'il restait un détonateur sur cette bombe de plus de 500 kilos. Les opérations se déroulent en plus à proximité des voies ferrées, des habitations. Il a aussi fallu enterrer la bombe dans un puits et la recouvrir avec près de 2 tonnes de sable avant de déclencher l'explosion. L'onde de choc devrait se ressentir légèrement au sol sur un rayon de 100 mètres environ, puisque les démineurs ont creusé des tranchées autour du puits pour limiter l'impact. Et une fois que cette bombe sera détruite, eh bien, le périphérique et l'autoroute à Rhin pourront rouvrir. La circulation des transports en commun, elle, pourra reprendre. Mais les perturbations devraient tout de même se poursuivre jusqu'en milieu d'après-midi.
Vianney Smirowski, porte de la Chapelle à Paris. 3 mois jour pour jour pour le mouvement des Gilets jaunes. On se souvient qu'il avait débuté le 17 novembre sur les ronds-points contre la hausse des carburants, pour la défense du pouvoir d'achat, un mouvement largement soutenu par les Français qui continuent d'approuver sur le fond, mais pensent aujourd'hui à 52% que les manifestations et blocages devraient cesser. Sondage IFOP publié dans le JDD ce matin. Alors même que les Gilets jaunes se sont donné rendez-vous pour l'anniversaire du mouvement sur la place de l'Étoile à Paris, où vous vous trouvez, Delphine Evenou.
Oui, ils sont environ 400 sur le haut des Champs-Élysées. Le cortège qui s'est formé doucement depuis 11 heures commence tout juste à s'élancer pour un parcours qui a été déclaré en préfecture. 7 km sur les Champs-Élysées, donc, puis vers les Invalides, le siège du MEDEF, avant de terminer sur le Champ de Mars. Mais pas de passage devant l'Assemblée nationale aujourd'hui. Un manifestant a été grièvement blessé à la main là-bas la semaine dernière. Manifestation déclarée, donc pacifique aussi. Les organisateurs y tiennent et rappellent au mégaphone qu'il faut se dissocier de toutes les violences pour ne pas ternir l'image du mouvement. Et manifestation un dimanche dans un objectif de concorde, explique Julien, étudiant en philosophie.
Je pense que le dimanche, on veut essayer quelque chose de nouveau parce qu'on s'est aperçu que le samedi, alors je prends de mon point de vue, de ma logique, je pense que comme les commerçants sont beaucoup impactés le samedi, est-ce que c'est pas parce que le dimanche, il y a plus de familles, les gens sont plus libres? Je pense que c'est ça, c'est la première fois qu'on le fait, donc on verra si ça fonctionne bien. Et bien ensuite, je pense qu'ils reprendront l'idée.
Et l'idée aujourd'hui, c'est aussi de fêter les 3 mois du mouvement, même si Fabienne n'est pas convaincue de l'impératif de souffler les bougies.
Je trouve que l'événement, il est un peu anecdotique, mais si je viens pas, je suis pas en phase avec ma conscience, on va dire.
Alors dans les slogans entendus pour l'instant du classique, pouvoir d'achat, lutte contre les inégalités, réforme démocratique, ils vont être scandés tout l'après-midi.
Delphine Evenou sur la place de l'Étoile avec Olivia Branger pour les moyens techniques. Dans le cadre du 14e acte hier, on aura retenu quelques scènes de violence contre les manifestants eux-mêmes à Rouen, où 3 d'entre eux ont été blessés par un automobiliste énervé, contre la permanence d'un député La République En Marche au Mans et contre le philosophe Alain Finkielkraut. Agonie d'insultes par des gilets jaunes croisés par hasard. Une enquête a été ouverte ce matin par le parquet de Paris pour injures publiques en raison de l'origine, l'ethnie, la race ou la religion. Dès hier soir, le président de la République avait apporté son soutien, public et privé, au philosophe, qui dit n'avoir pas eu peur, mais senti une haine absolue de la part de ses agresseurs. Alain Finkielkraut, ce matin sur LCI.
Je pense que certains d'entre eux voulaient me casser la gueule. C'était une violence, malgré tout, pogromiste. Je dois ajouter que, au même moment, deux ou trois gilets jaunes sont venus vers moi pour me tendre un gilet et pour me demander de me joindre à la manifestation. Et un autre monsieur, qui était dans la manifestation, est venu vers moi pour me dire à quel point il appréciait mes positions. Tout le monde n'était pas au diapason, mais la majorité des gens qui passaient me voient une haine très antérieure. Peu leur importait les positions que j'avais pu prendre à l'origine du mouvement. Leur religion était faite sur ma personne. J'étais un raciste, j'étais une grosse mère de sioniste, j'étais un fasciste. Et à ce titre-là, je devais être immédiatement expulsé.
Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a dénoncé la bête immonde, tapie dans l'anonymat d'une foule. Marine Le Pen dénonçait la tentative d'infiltration des Gilets jaunes par l'extrême gauche antisémite. Pour le président des Républicains, Laurent Wauquiez, ceux qui ont fait ça sont d'abjects crétins. Quant au député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, invité de questions politiques sur France Inter à l'instant, il s'inquiète d'un climat général en nette dégradation selon lui.
Ce qui s'est passé est une abomination. Parce que derrière l'attaque individuelle contre Alain Finkielkraut, il y a naturellement une volonté très claire d'exprimer un antisémitisme insupportable que nous devons tous condamner avec beaucoup de force. Au-delà de cette attaque, c'est un climat qui devient détestable. Ce sont des actes, ce sont des paroles qui se multiplient. Nous avons vu la montée des actes antisémites l'année dernière, plus 74%. C'est énorme et il faut réagir.
Quels seraient les moyens les plus sûrs de faire reculer l'antisémitisme ?
Aujourd'hui, c'est des condamnations judiciaires fortes, exemplaires, dissuasives. La République, l'État, la puissance publique ne peut pas laisser passer ça. C'est pas simplement Alain Finkielkraut qui est en cause, c'est la République qui est attaquée.
Éric Ciotti à l'instant avec Ali Badou, le député des Alpes-Maritimes, qui demande l'interdiction des manifestations, ce qui n'est pas dans notre pouvoir ni même dans nos intentions, a répondu ce matin également Laurent Nunez, le secrétaire d'État à l'intérieur. Quant au président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, Francis Khalifa, il dénonce l'expression d'un antisémitisme d'origine islamo-gauchiste. Par ailleurs, ce matin, le parquet de Lyon a de son côté ouvert une enquête sur autre chose, le caillassage d'une voiture de police. L'attaque a été filmée de l'intérieur par les policiers. Elle tourne en boucle ce matin. Et puis au Mans, 10 personnes ont été interpellées dans la soirée et la nuit après les violences d'hier. À Barcelone, ils étaient 200 000 hier pour soutenir la cause indépendantiste et protester contre le procès de leur leader, actuellement en cours à Madrid. Ce dimanche, c'est le camp des unionistes qui appelle à manifester pour la défense d'une Espagne indivisible sous la forme d'une réunion publique. Rien à voir donc avec la démonstration de force d'hier. Mélanie Nunez à Barcelone.
Des unionistes qui ont revu cette mobilisation à la baisse. Ils ont décidé d'annuler la manifestation prévue à midi car ils estiment être satisfaits des élections législatives d'avril annoncées par le chef du gouvernement Pedro Sanchez. Ils ont toutefois organisé une réunion publique. Elle se déroule en ce moment dans un hôtel très chic, dans un quartier qui concentre les sièges des entreprises catalanes avec vue sur la mer. Ils sont quelques centaines. Pour le moment, rien à voir donc avec la démonstration de force hier des indépendantistes avec près de 200 000 personnes dans la rue. L'objectif de cette réunion, c'est avant tout de délivrer un message d'unité. La Catalogne, c'est l'Espagne. Ils souhaitent défendre la constitution de leur pays. J'ai pu parler avec des militants très confiants qui placent tout leur espoir dans cette alliance de droite qui connaît une poussée en Espagne. Elle regroupe trois partis, Ciudadanos de centre droit, le Parti populaire, le PP à droite et Vox, le récent parti d'extrême droite qui a émergé depuis peu. Des unionistes qui ont donc basé leur discours de campagne contre l'indépendantisme. Barcelone, Mélanie Unas, France Inter.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
C'était il y a 6 mois, l'été dernier, le 14 août précisément, l'effondrement d'un pont à Gênes en Italie faisait 43 morts. Les opérations de démolition du pont viennent d'ailleurs tout juste de commencer. Dans la foulée de cette catastrophe, le Sénat français créait une mission d'information sur la sécurité des ponts en France pour vérifier les ouvrages gérés par l'État, mais aussi tous les autres qui sont à la charge des collectivités territoriales. Parmi les tout premiers ponts auxquels cette mission s'est intéressée, celui de Rosselmont à Petite-Rosselle en Moselle. Un ouvrage en très mauvais état qui aurait besoin de gros travaux, des travaux estimés à 500 000 euros dont il reste à trouver le financement. La mairie demande à l'État de mettre la main à la poche. C'est le droit de suite de ce journal Magali Fichter.
Sur le dessus, la chaussée est pleine de crevasses, ça tremble quand des voitures passent, le pont est interdit au plus de 3,5 tonnes, mais dans les faits, ce n'est pas toujours respecté. Et en dessous, les piliers sont en mauvais état, des filets retiennent les gravats. Le sénateur Hervé Maurey, président de la mission d'information, n'en revient pas.
Je pense que la structure continue à se dégrader.
Les usagers de la piste cyclable qui voient ça au-dessus de leur tête.
Et le préfet, ça ne mobilise pas plus que ça?
On lui a envoyé 2 courriers, pas de réponse.
Je serais préfet du département, je m'inquiéterais un petit peu. Mais
bon. On a vu la sous-préfète.
Ce pont avait été construit par les houillères de l'eau. Or, depuis leur fermeture, c'est l'État qui est censé s'y substituer et donc prendre en charge les travaux. C'est en tout cas l'avis du maire de Petite-Rosselle, Gérard Mittelberger, qui espère que les sénateurs vont faire bouger les lignes.
C'est, du moins je l'espère, une aubaine, puisqu'il voit le pont. Et il y a une prise en compte des difficultés que nous avons en termes de communes financières, etc. Et de l'état du pont, bien sûr.
En attendant, est-ce qu'il est dangereux ce pont? La réponse de Virginie Genoyer, ingénieure du bureau d'études mandaté par la mairie.
Ça peut attendre jusqu'à l'été prochain, jusqu'au travaux de démolition-reconstruction.
Mais pas beaucoup plus.
Ça serait souhaitable. Surtout que quand on commence à dire 1 an, ça devient vite 5 ans ou 10 ans et c'est vraiment pas souhaitable. Et ça, c'est sous réserve aussi que la limitation à 3,5 soit respectée.
Pour cela, des signaux lumineux vont être mis en place à Forbach pour que les camions respectent la déviation. Mais ça ne règle pas le problème du financement des travaux.
Magali Fichter de France Bleu Lorraine. Invité de ce droit de suite, Patrick Chaise, sénateur Les Républicains de l'Ain, vice-président de la commission d'enquête du Sénat sur les ponts. Bonjour.
Bonjour.
Alors il y a 200 000 ponts en France à peu près, dont près de la moitié sont gérés par les collectivités. Des urgences ont été identifiées, on vient de l'entendre, hein. Urgences identifiées sur 23 ouvrages, mais il ne s'est pas passé grand-chose pour l'instant.
Oui, effectivement. Alors en fait, c'est même beaucoup plus que la moitié, puisque sur les 200 000 ponts, seuls 12 000 sont à la charge de l'État, 15 000 à la charge des sociétés concessionnaires d'autoroutes, 100 000 pour les départements et 80 000 pour les communes. Vous voyez que la grande majorité de ces ouvrages sont donc portés par les collectivités. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une prise de conscience. Alors certes, il y a donc l'effet du pont Morandi, mais il y a aussi un certain nombre de cas, donc comme celui de Moselle, qui font que globalement il y a une inquiétude qui est née au sein des collectivités. Malheureusement, on sait tous, les finances des collectivités ne sont pas des plus prolifiques, et donc globalement la question de sécurité est là, elle est forte et elle inquiète l'ensemble des acteurs.
Bah, il y a de quoi, un an après la catastrophe de Gênes, on a le sentiment que nulle part les travaux n'ont commencé.
Alors, le cas de Gênes n'est pas un cas qu'il faut reproduire ou penser qu'il est reproductible sur l'ensemble du territoire national. Je crois qu'il ne faut pas non plus exagérer les choses. Hein. Donc il y a une prise de conscience qu'il faut prendre, prise de conscience qui est liée à plusieurs éléments. Tout d'abord, parce que les ponts en France, comme dans beaucoup des pays européens, ont été construits dans des périodes après-guerre, qui fait que ces ponts ont un âge, qui est un âge respectable, mais qui est un âge qui fait que on est un peu plus malade que quand on est un peu plus jeune. Et il faudra même penser, pour un certain nombre de ces ponts, à considérer qu'il y a une fin de vie. C'est un ouvrage d'art. Ces ouvrages d'art donc sont fabriqués suivant des normes techniques, avec des caractéristiques, mais aussi des hypothèses, notamment de trafic, qui font que on sait que ces ouvrages vont devoir être refaits à une date donnée. Le fait que, évidemment, on ait une accélération de l'occupation suivant les voies de ce trafic, que peut-être l'entretien a été un peu moins bien fait qu'il l'aurait dû, oui. Eh bien, les ouvrages donc arrivent à leur terme de vie.
Sachant Patrichès, qu'un entretien régulier coûte moins cher que des travaux de réparation.
Oui.
Pourquoi ne pas s'en préoccuper avant ?
Alors, en fait, pour le cas, en l'occurrence, du pont de Moselle dont vous avez parlé, ce qu'il faut voir, c'est que ça fait partie des ponts qu'on va appeler les ponts orphelins. C'est-à-dire que ce sont des ponts qui ont été construits par un maître d'ouvrage à l'époque, pour un besoin donné à l'époque, qui ont fait l'objet d'un oubli. C'est-à-dire qu'en fait, le responsable de l'ouvrage, alors c'est vrai pour ce pont-là, mais c'est vrai aussi pour d'autres ponts, par exemple de la SNCF, où on avait des voies SNCF à une époque qui ont disparu, mais le pont est resté. Et en l'occurrence, on ne sait plus vraiment qui est responsable de l'entretien de ce pont. Donc tout le monde se revoit un petit peu la balle en disant « c'est pas moi, c'est toi en attendant, il se fait rien et l'état des ouvrages se dégrade dangereusement.
Alors sachant qu'une plateforme de consultation vient d'être mise en place qui va permettre de faire remonter les informations ?
Tout à fait. Alors ça, c'est l'objet de la commission d'enquête qu'on a lancée au Sénat. On a donc élaboré un certain nombre, bien sûr, d'auditions auprès des professionnels, auprès, bien sûr, des gestionnaires de voirie, pour essayer de comprendre aussi et d'identifier les zones de risque. Et on a effectivement lancé auprès des collectivités cette enquête afin de pouvoir récolter un maximum d'informations. Il faut bien sûr le savoir, il y a aussi dans les zones de risque ou dans les précautions à prendre, le type de construction. Les ponts ne sont pas construits de la même façon. On a en gros 60% de ponts qui sont faits en maçonnerie, c'est-à-dire en pierre, donc qui ont des caractéristiques qui sont différentes des ponts en béton. Alors dans le béton, on a le béton armé, on a le béton précontraint, et puis des ponts en métal. Il y a 30% de ponts en béton et 10% de ponts en métal.
Et l'état des lieux est difficile dans les petites communes qui n'ont pas toujours les moyens d'inspecter comme il faut les ouvrages. Merci beaucoup Patrick Chaise, vice-président de la commission d'enquête du Sénat sur les ponts. Merci. Quand Alexandre Benalla porte plainte, l'ex-collaborateur de l'Élysée veut savoir où et comment sa conversation téléphonique avec le gendarme réserviste Vincent Crase a été enregistrée. Enregistrement évoquant notamment le soutien d'Emmanuel Macron et diffusé par Mediapart. L'avocate de Benalla a déposé plainte pour détention illicite d'appareils ou de dispositifs techniques permettant la réalisation d'interceptions. Et puis le convoyeur de fonds voleur et sa complice présumée sont sous les verrous, arrêtés ensemble mardi à Amiens après qu'il s'était enfui avec son fourgon et un peu plus de 3 millions d'euros. Ils ont été mis en examen, notamment pour vol en bande organisée. Une partie du butin n'a toujours pas été retrouvée. C'est une première en France en matière de sécurité dans le cadre de la mise en place de la PSQ, la police de sécurité du quotidien, promise par Emmanuel Macron. En l'occurrence, c'est une gendarmerie de proximité qui vient de faire son entrée dans un centre commercial. C'est l'un des plus grands de France, à Creil-Saint-Maximin, dans l'Oise. La brigade s'est installée au plus près des 400 commerce du site, Emmanuel Leclerc.
On a eu des incidents tout à l'heure, c'est poussé en ligne. On a eu un délinquant chez Kiabi qui a été interpellé chez BMW.
Le président des commerçants de l'immense centre commercial Creil-Saint-Maximin a pu raconter son quotidien en matière de sécurité en fin de semaine à Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Et d'abord, ce bureau au premier étage pour 4 à 5 gendarmes qui se relaient chaque jour depuis un an. Ils dépendent de la compagnie de Chantilly qui se trouve à plus de 20 minutes en voiture. Et c'est bien pour cela que les commerçants, après des vols à l'étalage, par exemple, ne portaient presque jamais plainte.
Ils baissaient les bras ou par fatalité ne venaient pas déposer plainte.
Le capitaine Nicolas Blot dirige cette opération test à Creil-Saint-Maximin.
Le nombre de signalés, on est sur 8% en hausse.
Dans un centre commercial immense comme ça, c'est combien de faits à peu près ? C'est des dizaines ?
C'est des centaines. C'est des centaines. Ouais.
Et ce sont bien plusieurs centaines de vols chaque jour dans ce centre commercial, principalement à l'étalage. Et pour réagir plus vite, les gendarmes et les commerçants ont d'abord mis en place une simple boucle WhatsApp.
J'ai fait plusieurs centres commerciaux et c'est la première fois que je vois ce dispositif-là, donc c'est très rassurant. Ouais.
Chacun peut faire que ça arrive plus vite. À tout moment, mettre un message pour dire « moi je les ai vus, tiens, ils sont là ». Chacun est acteur de la sécurité dans sa zone.
Les commerçants font remonter de l'information, mais nous on en fait redescendre aussi. Un premier signalement dans un magasin, au bout de 5 minutes, l'ensemble des magasins qui sont susceptibles de se faire attaquer sont également dans la boucle, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
À Creil-Saint-Maximin dans l'Oise, Emmanuel Leclerc, France Inter.
Au Mondiaux de ski, Marcel Hirscher imbattable en slalom. Dans la première manche, en tout cas, l'Autrichien a relégué ses adversaires à plus d'une seconde, sauf Pinturo, deuxième. Clément Noël s'est un peu raté, il est à plus de 2 secondes. Et puis sera-t-il à l'affiche mercredi prochain, grâce à Dieu, le film de François Ozon sur l'affaire Prena, qui fait l'objet d'un référé, a reçu le prix du jury de la Berlinale, le festival de Berlin, dont l'Ours d'Or est allé à Synonyme, au pluriel. Film de Nadav Lapid, l'histoire d'un jeune Israélien qui rejette son pays et sa langue pour venir vivre en France. Enfin, plus que 10 jours pour intégrer le jury du prix du Livre Inter, expérience exceptionnelle à vivre. Pour ceux qui aiment lire et qui aiment le débat littéraire, il faut nous écrire sur franceinter.fr ou par courrier à Livre Inter, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16, date limite d'inscription le 26 février.